biographie qui s'appelle America 250. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est justement l'approche des 250 ans pour célébrer l'indépendance des États-Unis. Et c'est dans ce contexte-là que le président américain reçoit aujourd'hui le roi de Grande-Bretagne, justement.
Alors, le roi Charles.
Le roi Charles. On va décortiquer l'impact politique de cette tentative d'assassinat aussi dans une perspective des élections.
Merci d'être là. Cette question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que selon vous, Donald Trump sort renforcé de cette séquence ?
Bien évidemment. Donald Trump était un président qui commençait à être isolé sur la scène politique nationale. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, sa base MAGA s'éloignait progressivement de lui, se sentant trahi par une personne, un président qui avait promis de ne jamais entraîner le pays dans une de ces guerres style Irak-Afghanistan. Et donc, voilà qu'avec l'Iran, nous nous retrouvons, nous autres Américains, plongés dans un conflit sans objectif clair. En parallèle, l'inflation repart à la hausse, le coût de la vie devient exorbitant pour des dizaines de millions d'Américains. Concernant ce président, des élections de mid-term qui s'annoncent très très difficiles. Et puis un entourage politique, son vice-président, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, Susie Wiles, certains sénateurs influents qui commençaient à marginaliser de plus en plus ce président qui avait entraîné le pays dans une guerre qui visiblement est loin d'être gagnée, si ce n'est qu'elle est perdue. Bref, Donald Trump a vu dans cette tentative d'assassinat, la troisième quand même, une opportunité pour un rebond. Il faut s'attendre d'ici quelques jours à voir les sondages remonter à la hausse concernant le président, mais surtout, et c'est ça ce qui l'intéresse, c'est sa base MAGA qui devrait se dynamiser à nouveau, être dynamisée à nouveau, et surtout se ressouder derrière le président, cet élu de Dieu, comme certains le disent.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que quelques heures après cette tentative, il a déjà réussi à rebondir? C'est sa posture, c'est cette fameuse conférence de presse quelques minutes après. Comment décoder?
Oui, effectivement, sa conférence de presse, niveau communication, était excellente. Nous avons eu un président qui a, peut-être la première fois, observé une stature présidentielle de père de la nation, entre guillemets. Il s'est adressé à tous les Américains, aucun mot plus haut que l'autre, aucune agression à l'encontre des démocrates ou bien des journalistes. Il a même parlé d'amour dans cette salle où se retrouvaient les plus hauts représentants de la presse américaine, une presse qu'il passe son temps à vilipender, sur laquelle il met des pressions quotidiennes. Bref, il a tenté d'observer, d'avoir une stature présidentielle, et cela a réussi. Alors attention, quand je parle de rebond, je ne dis pas qu'il va prendre 30 points dans les sondages, bien évidemment, mais un président fragilisé se voit aujourd'hui comme un cadeau tombé du ciel, se voit avec entre les mains cette manière de pouvoir rebondir. N'oublions pas non plus que sa base électorale est composée de courants religieux très puissants, dont les évangéliques, qui avaient déjà vu dans Donald Trump, surtout après la tentative d'assassinat du 13 juillet 2024 durant la campagne présidentielle, l'élu de Dieu, comme je disais, quelqu'un qui était protégé par la Providence, et une nouvelle fois, évidemment, cette idée va continuer à circuler auprès de ces personnes.
Trump, au plus bas dans les sondages, vous l'avez évoqué, Romuald Sciorra, une tentative qui arrive à 2 mois du déclenchement de la guerre en Iran, ça sera demain, avec déjà une théorie des complots dans ce contexte-là qui vit aux États-Unis. Trump qui lui-même attise ces théories-là, ces vérités alternatives, qui sapent la confiance des Américains. Comment dans ce contexte-là, qui dit qu'en fait c'est un coup des démocrates, ce serait un coup des démocrates justement dans le contexte pour faire rebondir le président Trump, dans ce contexte-là, en vue des élections, comment il pourrait aussi contourner ces vérités alternatives, comme on dit là-bas?
Mais écoutez, Donald Trump est le champion du monde du contournement des vérités alternatives. Je prendrai juste 2 exemples. L'assaut contre le Congrès du 6 janvier 2021, comme vous le savez sans doute, depuis un décret présidentiel il y a quelques mois, la vérité officielle du gouvernement fédéral, celle qui sera inscrite dans les manuels scolaires à partir de septembre, et que le 6 janvier 2021 était un coup d'État fomenté par les démocrates. Les républicains manifestaient pacifiquement pour tenter de sauver une une élection qui leur avait été volée, et ce sont les démocrates qui ont manipulé tout cela pour faire croire à une tentative de coup d'État. C'est ce qui est inscrit dans les manuels scolaires de la plupart des États républicains. Il y a encore quelques jours, Donald Trump a prouvé combien il était doué pour ce genre de choses. Il était entré, le jour où il est entré en campagne pour les mi-termes, lors de ce fameux meeting de Turning Point, l'organisation créée par Charlie Kirk, l'activité extrême droite assassinée l'année dernière. Il s'est fait acclamer, après avoir lui-même proclamé victoire, le détroit d'Ormuz est ouvert, nous avons atteint tous nos objectifs en Iran. Et sa base l'a applaudi, fanatisé, comme si c'était une victoire digne d'Alexandre le Grand, en oubliant que le détroit d'Ormuz fonctionnait parfaitement et était très bien, était totalement ouvert il y a encore un peu plus de 2 mois avant que ce président nous entraîne dans une guerre. Donc bref, il pourra faire avaler ce qu'il veut à sa base, MAGA, mais attention, les élections de mi-mandat sont sans aucun doute perdues, mais elles ne seront peut-être pas perdues aussi méchamment qu'elles auraient pu l'être sans cette nouvelle tentative d'assassinat.
Dans la salle où se tenait le gala, il était écrit en grand célébrant le premier amendement de la Constitution américaine pour défendre justement la liberté d'expression. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Vous d'ailleurs, Romuald Skura, vous dites qu'il y a une atteinte sur cette liberté d'expression de manière inédite aux États-Unis. Pourquoi?
Bien évidemment, écoutez, la démocratie américaine n'a jamais été autant menacée qu'elle ne l'est depuis un peu plus d'un an. Pour ce qui est de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, médias publics fermés, pression comme nous n'avons jamais vu aux États-Unis sur les médias privés, certains présentateurs vedettes ont été poussés vers la sortie suite à de nombreuses pressions de la Maison-Blanche. Les télévisions aujourd'hui sont obligés de revoir leur programme, moins d'inclusivité. On en pense que l'on en veut, mais certaines théories, comme la théorie critique de la race ou du genre, sont interdites dans tout ce qui reste des médias privés. Et concernant la liberté d'expression, je donnerai un exemple. L'université de Columbia avec qui je travaille, l'université vient de publier mon dernier livre aux États-Unis, et je peux vous dire qu'il y a également une pression très forte sur les chercheurs, sur les historiens, quant à ce qu'ils peuvent écrire. Donc effectivement, il y a une ironie de voir Donald Trump venir se pavaner à un événement comme celui de samedi dernier, mais l'ironie va encore plus loin. Donald Trump, qui vilipende les journalistes chaque jour qui passe, va sans aucun doute, lorsque ce dîner va être reconduit d'ici une trentaine de jours, réussir à se faire acclamer par les journalistes qui n'auront pas véritablement le choix. Il se présentera comme le survivant d'une nouvelle tentative d'assassinat, et vous aurez toute la salle debout en train d'acclamer ce président qui n'a que pour objectif de porter atteinte à la liberté d'expression et à la plupart des médias encore libres.
Romuald Skura, vous avez dénoncé ceci, des têtes devraient tomber. Voilà ce que vous avez dit, dénonçant justement une faille de sécurité plutôt ahurissante suite à ce qui s'est passé ce week-end. Que dire justement de cette faille de sécurité, et puis quelles têtes devraient tomber selon vous?
Écoutez, voyons les choses telles qu'elles sont. Nous aurions vu cela dans un téléfilm de Netflix, nous aurions dit que ce scénario ne tenait pas la route. Un type arrive dans le Hilton de Washington, un hôtel immense que je connais bien, avec un sac, et dans son sac, il a quoi? Il a un fusil, un flingue, des couteaux. Bonjour, je voudrais une chambre, pas de problème, monsieur, on lui donne la clé, et personne ne pense à fouiller le sac de ce monsieur ou les bagages de tous les clients de l'hôtel, alors que le président des États-Unis doit venir s'exprimer dans ce lieu 2 jours plus tard. Mais écoutez, c'est ahurissant. Et ceux qui nous disent, oui, mais écoutez, il y a près de 2000 clients dans cet hôtel. Ben oui, mais bon, quand vous allez dans un stade, vous êtes bien souvent fouillé. Quand vous allez à l'aéroport, il y a plus de 2000 personnes et tout le monde est fouillé. On parle quand même du président des États-Unis. Donc c'est impensable. Imaginons que ce tueur potentiel ait été accompagné de 3 amis à lui et que ces personnes aient des fusils mitrailleurs, voire des grenades. Visiblement, ils auraient pu les faire entrer dans l'hôtel sans aucun souci. Et donc, ce n'est plus une personne qui se serait ruée vers la salle de bal et qui a pu être stoppée par les agents du secret service. Ça aurait été 3-4 personnes. Il aurait été impossible de tous les stopper et cela aurait été un massacre. Deuxième erreur incroyable contre toute tradition américaine, contre toute, non pas loi, mais comme on appelle ça en français, rules, enfin bref, c'était quasi quasiment inconstitutionnel, je vais y arriver. Pour la première fois, nous avions depuis très longtemps réunis dans la même salle le président des États-Unis, le vice-président qui normalement doit devenir président si le président meurt, le président de la Chambre des représentants, deuxième en ligne de succession, et nous avions également le secrétaire d'État. C'est-à-dire que toute la ligne de succession était présente dans cette salle, quand normalement, au moins une de ces personnes doit être ailleurs au cas où il y aurait un attentat majeur.
Donc,
c'est assez inconsidéré et oui, des têtes devraient tomber.
Une dernière question, vous, à l'historien justement qui retrace l'histoire américaine dans votre dernier livre. Comment décoder cette violence politique, cette violence physique? C'est pas neuf dans l'histoire américaine. Est-ce qu'on est là dans une bascule inédite sous l'administration Trump et pourquoi?
La violence a toujours été présente dans l'histoire américaine. C'est quand même un pays qui s'est bâti sur un génocide. Mais cette administration aide évidemment à exporter d'abord cette violence à l'étranger, de par ses agissements illégaux sur la scène internationale et sur la scène nationale, avec évidemment cette police politique qui est devenue ICE, mais aussi peut-être et surtout de par le comportement d'un président qui humilie, qui insulte ses adversaires. Cette violence verbale ne peut qu'inspirer d'autres personnes dans un pays où il y a déjà des tensions et des violences au quotidien. L'Amérique n'a jamais été autant polarisée et cette administration y contribue grandement.
Merci beaucoup Romuald Ciora. Vous...